mazungumzo.
Hakuna kilicho
kikubwa kama vile ya mami.
Hakuna kilicho baba yangu
kikubwa kama vile na kimya.
Bila amani kimya na upendo ndugu yangu.
Hatukiwa na pesa ni bure.
Hatukiwa na pesa nyingi gari ndege na sasa.
Bila amani yote ni bure.
Hatukiwa na bibi na watoto ndugu na rafiki.
Bila amani yote ni bure.
L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Lundi 28 avril 2025, c'est l'heure de vous informer sur Radio Mindelo. Exactement 6 heures passées de 15 minutes à Bukavu et dans les territoires. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la ligne de l'actualité, dans cette édition du journal, toute initiative tendant à apporter des solutions à la crise dans l'est de la RDC, elle est bienvenue, en témoigne l'implication de Washington, complétant celle du Qatar et des organisations régionales comme la fusion de la SADC et de l'EAC. C'est l'avis du professeur Mathieu Mukengere, enseignant en relations internationales à l'université officielle de Bukavu, IOB. Vous l'entendrez dès le début de cette édition du journal. Et toujours dans l'actualité, l'épidémie de choléra frappe au moins 3 zones de santé sur 34 et compte les Sud-Kivu avec en tête la zone de santé de Minova en territoire décalé qui compte 619 cas depuis le début de l'année, nous dira Justin Benguea, spécialiste en santé publique. Et voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin. Merci de nous faire confiance. Joseph Tizungu assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
L'implication de Washington dans la décrispation de la situation sécuritaire en RDC a pour fondement un accord sur l'accès des États-Unis aux ressources minières en RDC en contrepartie de la garantie de sécurité. Ce processus est complémentaire à l'initiative du Qatar et les deux combinés offrent une perspective pour un retour de la paix en RDC. Tel est l'avis du professeur Mathieu Mukengere, enseignant en relations internationales à l'université officielle de Bukavu, IOB. Ces deux processus ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires. Toutes les deux parties, à savoir les M23 et le gouvernement de Kinshasa, s'en sortent vainqueurs car dans les deux cas, les avis des uns et des autres sont considérés, indique le professeur Mathieu Mukengere. On l'écoute.
De l'émissaire Qatari à Washington auprès de Massad Boulos, secrétaire d'État américain, à la veille de la sortie de cette déclaration, qui d'ailleurs était au point de ne pas être signée, n'eût été ce déplacement de l'envoyé Qatari. Il va sans dire que cette implication de Washington dans la décrispation de la situation sécuritaire, diplomatique et sociale en République démocratique du Congo, entre autres pour fondement, un accord dans les processus de signature est en cours sur l'accès des USA aux minerais de la RDC en contrepartie de garanties de sécurité. Qui sort victorieux de ce désaccord d'engagement ? Semblablement parallèle, pourtant complémentaire. Nous pouvons dire que depuis Bunagana, l'AFC M23 n'avait besoin que d'un dialogue interne. Nous pouvons ainsi affirmer sans embâche sa victoire à Doha. Elle peut donc frotter les mains de ses avancées au niveau de Doha. S'agissant du perdant de ces deux actes d'engagement, disons que pour Kinshasa, qui ne voulait d'aucun rapprochement avec les rebelles, qu'il qualifiait même de pantin, Doha serait considéré comme un recul dans la démarche. Par ailleurs, étant donné la volonté qu'a toujours manifesté Kinshasa de rapprochement direct avec Kigali, Kinshasa sort donc dans moindre mesure victorieux de la démarche de Washington. En somme, à Doha comme à Washington, la population congolaise en particulier et celle de la sous-région en général peut se féliciter de ses efforts de paix car elle pourrait vivre dans un avenir très proche une accalmie pour ne pas dire une paix.
Et en consultation avec le gouvernement des États-Unis, ces deux parties acceptent de s'engager sur une voie permanente permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. En clair, la RDC et les Rwandais doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Au plan sécuritaire, à noter ces documents, les deux pays s'engagent à créer un mécanisme commun de coordination sécuritaire afin de lutter contre les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles qui menacent les intérêts communs de sécurité. Dans le cadre d'intégration économique, Kinshasa et Kigali se proposent d'élargir la coopération sur des priorités communes telles que le développement hydroélectronique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minerais en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. Tous ces principes tiennent compte entre autres des processus fusionnés de Nairobi et de Luanda et prennent également en compte les discussions en cours à Doha. Cette déclaration porte et sur des principes qui doivent permettre de restaurer la paix dans l'Est et faciliter la reprise des relations entre les Rwandais et la RDC. Par ailleurs, ce document prend en compte les retours des déplacés internes, des réfugiés, des soutiens à la MONUSCO, aux forces et mécanismes régionaux pour aboutir à un accord de paix. Et retour au sud Kivu, le nouvel administrateur du territoire dit du Pascal Tambouka sous la FCM23 promet de travailler pour le développement de ces territoires insulaires en améliorant l'image de ces territoires. Il l'a signifié lors de son installation le week-end dernier par le vice-gouverneur des provinces en charge des questions politiques et administratives sous la FCM23, Douni Abouengue Doux. Notre permanent à Iduri, Chelu Biamana, nous en dit plus.
Au cours de cette cérémonie, le vice-gouverneur a félicité les populations du territoire d'Iduri qui protège la paix et le vivre ensemble, tout en invitant les administrateurs Pascal Ntambuka et Muhanuka Mwezi Hamza, respectivement administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants, de maintenir et protéger la paix et la sécurité, vulgariser les objectifs du mouvement AFC-M23 et travailler pour le développement du territoire d'Idui.
La mission qui leur est confiée, c'est de bien vouloir vulgariser les idéaux du mouvement AFC-M23, mais aussi amener la paix, la sécurité, la cohabitation entre la population de cette île, mais aussi sensibiliser la jeunesse à faire l'armée.
L'administrateur des territoires dit du Pascal Ntambuka promet de suivre les orientations de sa hiérarchie tout en travaillant pour une nouvelle image d'Idui avec le concours de la population.
L'île d'Idui, c'est notre île, c'est mon île natale. Je connais ce que ça signifie. Je connais que l'île d'Idui, c'est parmi les entités oubliées par le régime passé. Ce que je sais, c'est que Idui doit avoir une autre image, une image nouvelle. Nous sommes engagés à travailler pour le changement.
Une Jeep 4x4 est mise à la disposition des administrateurs pour une mobilité dans tous les territoires d'Idui, affirme le vice-gouverneur. Richelieu Biamana, Idui, Radio Maendeleo.
Merci Richelieu Biamana et merci de suivre Radio Maendeleo à Bukavu et dans les territoires d'Idui. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal sur les 34 zones de santé qui comptent la province du Sud Kivu, au moins 3 sont frappées par une épidémie de choléra. Il s'agit de la zone de santé de Minova dans les territoires de Kalehe qui vient en tête avec 619 cas depuis le début de l'année suivie de celle de la Ruzizi dans les territoires d'Ouvira avec 449 cas, dont 11 décès et récemment la zone de santé de Katana avec plus de 90 cas, mais dont les statistiques ne sont pas encore bien établies. Etienne Molendo.
La précision et de Justin Benguehia, spécialiste en santé publique et responsable du bureau en charge de l'information sanitaire, recherche et surveillance des maladies à la division provinciale de la santé au Sud Kivu. En plus de ces zones en épidémie, 4 autres sont touchées par cette maladie, à savoir Idui, Uvira, Fizi et Bunyakiri, ce qui fait un total de 8 zones sur les 34 que compte le Sud Kivu. Dans la zone de santé de Minova et celle de Ruzizi, le nombre de cas est élevé au regard des populations en déplacement permanent, particulièrement dans les zones où l'accès à l'eau reste un casse-tête, en plus de l'accès aux soins de santé. Dans la zone de santé de Katana, les cas de choléra sont concentrés dans le carré minier de Lomera, groupement de Luhihi en territoire de Kabare. Les causes seraient la promiscuité, la consommation des eaux souillées ainsi que le non-respect des règles d'hygiène, explique Justin Benguehia.
La semaine qu'on vient d'achever ici, Minova a notifié 60 cas. Cette situation, je pense, elle est aggravée par un nombre assez important de déplacés internes, avec une pénurie en eau potable, malheureusement, dans la majorité des aires de santé de Minova littoral. Les interventions que nous avons menées avec l'appui de nos différents partenaires nous ont permis de limiter les décès, car la zone n'a enregistré qu'un seul décès jusque-là. Et également la zone de santé de Ruzizi dans la plaine qui occupe la deuxième position avec 449 cas et 11 décès. Cette forte mortalité est liée à l'inaccessibilité de cette zone suite à la situation sécuritaire que vous connaissez. Cette semaine, la zone de santé de Ruzizi a notifié 38 cas. Dans l'axe nord, la zone de santé de Katana qui est en épidémie depuis pratiquement 2 semaines et ça c'est beaucoup plus dans les carrés miniers de Lomera dans le groupement de Luhihi. Les statistiques de décès à Katana restent jusque-là inconnues car la majorité meurt en cours de route, voulant aller chercher les soins appropriés à Bukavu ou ailleurs. L'éclosion de cette épidémie, je pense, est due beaucoup plus par une grande promiscuité dans les carrés miniers, là où il n'y a pas de latrine, déjà des fecs à l'air libre, un manque d'eau potable. D'ailleurs, il faut dire que même les 2 cas notifiés dans la zone de santé d'Ibanda, ils sont venus de la zone de santé de Katana dans les carrés miniers de Luhihi. Nous devons faire aussi attention ici à Bukavu, puisque ça peut être à l'origine d'une épidémie dans dans la ville.
Il appelle les populations dans les zones affectées à faire plus attention lorsqu'apparaissent les signes tels que la diarrhée et les vomissements, référer les cas dans les structures médicales à temps, mais aussi à consommer les aliments bien cuits. Justin Benguehia recommande également le respect des règles d'hygiène, notamment bien laver les aliments comme les fruits et autres qui peuvent être consommés crus, et aussi éviter de déféquer à l'air libre, surtout dans les zones des grandes concentrations, à l'instar des carrés miniers ou des camps.
Dans ce même chapitre, des habitants de plusieurs villages du territoire de Calais craignent la survenance des maladies d'origine hydrique, comme le choléra dans leur milieu si rien n'est fait dans l'urgence. Ceci fait suite à l'usage des eaux souillées causées par la destruction des sources qui les approvisionnent en eau potable lors des dernières pluies qui se sont abattues sur la majeure partie du territoire de Calais à l'Incabica.
Dans un entretien avec Radio Mindeléo, ces habitants expliquent que plusieurs sources d'eau ont été détruites dans leur milieu lors des pluies diluviennes qui s'abattent du jour au lendemain sur la majeure partie du territoire de Calais. À ceci s'ajoutent d'autres sources détruites lors des affrontements signalés sur place entre les militaires FARDC et ceux de l'AFC 123 en février dernier. Suite à cette situation, des habitants du territoire de Calais utilisent actuellement certains l'eau du lac Kivu, d'autres celles des rivières, avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur leur santé. Dans certains villages comme Michéberé, des collectes de fonds à hauteur de 500 francs congolais par ménage ont été amorcées pour tenter de faire réparer certaines sources endommagées, mais rien n'évolue sur le terrain suite à la situation que traversent plusieurs ménages de la place. Au-delà de cette situation, l'on rapporte également la destruction de plusieurs maisons d'habitation et lieux d'aisance lors des pluies signalées à Calais ces derniers temps. C'est le cas du village Kaboneke Muhongoza, où à ce jour plusieurs habitants font leurs besoins à l'air libre, avec tous les risques d'attraper des maladies. Face à cette situation, ces habitants estiment qu'il est temps pour les partenaires et d'autres personnes de bonne volonté de leur venir en aide, surtout avec la reconstruction de leurs maisons et sources d'eau endommagées. D'autres plaident pour une assistance en semences, car plusieurs champs ont été dévastés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la majeure partie du territoire de Calais, où la quasi-totalité de la population vit de l'agriculture.
Et puis les employeurs sont appelés à renforcer les systèmes de sécurité à des lieux de travail en vue de protéger les employés de tout danger et éventuelle maladie liée au travail. La recommandation est de la présidente de l'intersyndicale au sud Kivu, Ghislaine Tshivava, dans un entretien accordé à Radio Mindeléo en marge de la commémoration de la journée internationale de la santé et sécurité au travail célébrée le 28 mai de chaque année. En temps normal, explique-t-elle, les employeurs doivent avant tout mettre les employés dans de meilleures conditions et à l'abri des dangers pouvant provoquer des accidents ou encore des maladies. Les lieux de travail ne doivent pas constituer une source de maladies ou encore des accidents, rappelle Ghislaine Tshivava. Ainsi, chaque société doit avoir une politique de protection de ses agents conformément à la législation en vigueur et même au droit international, rappelle Ghislaine Tshivava.
On recommande toujours aux employeurs de mettre les travailleurs dans de bonnes conditions, en leur payant les soins médicaux, en leur payant les allocations familiales et rendre en charge tous ces travailleurs pour qu'ils puissent vous donner le meilleur, c'est-à-dire produire un bon résultat que vous attendez d'eux.
Pour ce lundi 28 avril 2025, cette journée célébrée sous le thème « Révolutionner la santé et la sécurité, les rôles de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail ». Et la nouvelle dynamique de la société civile NDC demande aux nouvelles autorités d'inviter les responsables de sociétés étatiques et privées spécialisées dans la construction des routes en province pour des échanges. Ces échanges devraient permettre de discuter sur les raisons qui bloquent la poursuite des travaux de construction et ou réhabilitation de certains tronçons routiers dont les débits étaient déjà effectifs dans la ville de Bukavu, comme dans les territoires. Pour cette structure citoyenne, il y avait déjà une lueur d'espoir quand les travaux ont débuté sur différents axes routiers en province, mais cet espoir s'est du coup envolé avec l'abandon de tous les chantiers. Actuellement, déplore la NDC, plusieurs routes se retrouvent en état de délabrement avancé, que ce soit la voirie urbaine ou les routes nationales, d'où la nécessité d'inviter toutes ces sociétés pour voir une issue favorable. Les rapporteurs provinciaux agents de la nouvelle dynamique de la société civil NDC au Sud Kivu, Wilfried Abamungu en parle dans cet élément.
Nous demandons aux autorités en place de la population de la ville de Bukavu en réparant certains endroits sur différents tronçons qui sont en état de délabrement très avancé, à savoir sur la route nationale numéro 2 juste à l'entrée de l'ISDER où il y a un problème. Les véhicules ne savent plus traverser. De même, lorsque nous montons un peu, non loin du lycée Ouima, à l'endroit communément appelé Yesu Yesu, il y a un problème. C'est pourquoi nous sollicitons l'implication des autorités en place pour inviter au besoin les responsables de l'OVD, les responsables de l'office des routes et même les responsables de certaines entreprises qui exécutaient les travaux afin de sauver la situation.
Wilfried Abamungu au micro des Radio Mandela. Avant de clôturer complètement cette édition du journal, le pape François repose désormais en paix. Après son décès en date du 21 avril, ses funérailles ont eu lieu samedi dernier au Vatican. Une messe solennelle a été célébrée sur place Saint-Pierre avant que son cercueil ne soit transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Le souverain pontife a ensuite été inhumé lors d'une cérémonie privée présidée par les carmélites chargés d'assurer l'intérim à la tête de l'Église. À Bukavu, l'archidiocèse s'est tenu à cette douleur qui a ému le monde entier. À cet effet, une messe a été organisée samedi en la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour honorer la mémoire du Saint-Père. Reportage signé Omer Moudekereza.
Dans une cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pleine à craquer, c'est à 10 heures que débute cette célébration eucharistique. Dans une ambiance empreinte de chagrin, mais aussi de louange à Dieu, sous la présidence de l'archevêque métropolitain de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroï. Dans son homélie, Mgr François-Xavier Maroï a rappelé que le chrétien est pèlerin sur la terre et que le pape François vient de franchir la porte de la vie éternelle. Il a exhorté les fidèles à fortifier leur foi pour être prêts, chacun au moment de son jour. Revenant sur les 12 années de pontificat du pape François, l'archevêque de Bukavu a mis à lumière sa simplicité, son engagement aux côtés des pauvres, son ouverture au dialogue interreligieux et sa lutte en faveur de la protection de l'environnement. On écoute un extrait de son homélie.
François, unyenyekevu wake, umaskini wake, kupenda mazingira.
La simplicité, la pauvreté et l'amour de l'environnement que le pape François a incarné tout au long de sa vie sont une véritable leçon pour nous tous. Son exemple nous invite à adopter une vue respectueuse de la nature, humble et proche des plus vulnérables. Il a œuvré avec persévérance à une époque où beaucoup de chrétiens semblaient s'éloigner de la foi, rappelant sans relâche l'importance de la prière dans un monde confronté à de nombreuses crises, notamment aux guerres qui éclatent de manière répétée un peu partout. À travers la mort du pape François, nous sommes appelés à continuer son combat en œuvrant pour l'unité, le dialogue et la paix entre les communautés.
Masikilizano tuishi kijama kama wana wa Mungu duniani kote.
Dans la foulée, les fidèles ont chacun un souvenir particulier pour les saints-pères. Tous les décrivent comme le pape des pauvres, soulignant son attention particulière aux plus vulnérables et à la famille. Prenant la parole au nom des confessions religieuses, Mgr Bahati Balibusane, évêque de l'église anglicane à Bukavu, a présenté le pape François comme défenseur de la paix et de l'unité entre les chrétiens à travers l'œcuménisme. On l'écoute. Le pape François, de son vivant, a constamment prêché en faveur de la restauration de la paix à travers le monde, convaincu que sans justice et dialogue sincère, il ne peut y avoir de véritables réconciliations. De plus, il a accordé une attention particulière à l'unité des chrétiens, encourageant les dialogues œcuméniques pour dépasser les divisions historiques et bâtir ensemble un témoignage crédible d'amour et d'espérance. Dans son intervention, le gouverneur de province sous l'administration AFC M23, Emmanuel Birato, a invité les chrétiens à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans les communautés, suivant l'exemple laissé par le pape François. Précisons qu'après l'inhumation du pape, un conclave sera convoqué pour élire un nouveau souverain pontife. Les cardinaux du monde entier, précisément ceux âgés de moins de 80 ans, se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour procéder au vote. Cela est prévu entre les 15e et 21e jours suivant le décès du pape, soit entre les 6 et les 11 mai prochains, conformément aux règles établies par la Constitution apostolique.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Mindeléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Toute initiative tendant à apporter des solutions à la crise dans l'est de la RDC elle est bienvenue, en témoigne l'implication de Washington complétant celle du Qatar et des organisations régionales comme la fusion de la SADC et de l'EAC. C'est l'avis du professeur Mathieu Mukengere, enseignant en relations internationales à l'université officielle de Bukavu, IOB. Vous l'avez entendu dans cette édition du journal. Et l'épidémie de choléra frappe au moins 3 zones de santé sur les 34 et compte le Sud-Kivu, avec en tête la zone de santé de Minova en territoire décalé qui compte 619 cas depuis le début de l'année, nous a dit Justin Bengué, spécialiste en santé publique. La mise en onde était celle de Joseph Tshizungu, la présentation et Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes de Radio Maindeleo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaindeleo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.